Chapitre 6. Lorsque Lady de la Cour eut rapporté à Miss Portman les compliments de Clarence, elle ajouta « Belinda, malgré toutes ces observations, je suis décidée à retenir Clarence Hervey au nombre de mes courtisans pendant ma vie, qui ne peut pas, comme vous savez, durer longtemps. Quand je n'existerai plus, il sera tout à vous, ma chère, et je vous en fais d'avance mon compliment. » Il restait une partie de la conversation de Lady de la Cour avec M. Hervey que, par discrétion, elle ne répéta pas tout de suite à Miss Portman. C'est ce qui concernait les chevaux. Belinda n'avait jamais pris d'autre part à cette affaire qu'en ayant dit une fois à Lady de la Cour que les chevaux qu'on lui avait amenés étaient charmants. M. Hervey, malgré toute la galanterie avec laquelle il répondit à Lady de la Cour, avait été choqué de voir combien il était peu convenant à Belinda de permettre que Milady se servît de son nom pour avoir des chevaux. Il se repentit de sa trop grande précipitation à s'excuser auprès d'elle et il reprit sa première opinion sur la nièce de Mistress Stanhope. Une rechute est toujours plus dangereuse que la première maladie. Il envoya le jour suivant les chevaux à Lady de la Cour. Et quand il rencontra Belinda, il s'approcha d'elle avec l'air délibéré d'un homme sûr d'avoir acheté son pardon. Mais à mesure que ses manières devinrent plus familières, celles de Belinda devinrent plus réservées. Lady de la Cour la railla vainement sur sa pruderie. Clarence Hervey commençait à croire que Lady de la Cour avait manqué à sa parole. J'espérais, dit Hervey, obtenir au moins un sourire de Miss Portman, puisqu'elle a bien voulu mettre un prix à cette faveur. Embarrassé par les reproches de M. Hervey et piqué de la sérénité de Belinda, Lady de la Cour se mit à bouder. Belinda, qui n'avait rien à se reprocher, n'ouvrit pas la bouche et augmenta par son air froid l'impatience de Milady. Clarence sortit. Enfin, sur le soir, Lady de la Cour reprit avec elle sa manière tendre et gaie. Elle lui dit « Savez-vous, ma chère, que je suis si honteuse de ce que j'ai promis à votre insu que je n'ose pas lever les yeux sur vous ?» Elle n'eut pas de peine à obtenir son pardon de Belinda. « En vérité, continua Lady de la Cour, vous êtes trop bonne. Mais aussi, pour ma propre justification, il faut dire que j'ai plus que personne des raisons pour être de mauvaise humeur. Ma chère, le plus obstiné de tous les hommes, Lord de la Cour, m'a réduite à la plus terrible extrémité. J'ai dit à Clarence Hervey d'acheter 2 chevaux pour moi, et Lord de la Cour ne veut pas les payer. Mais j'oublie de vous dire que j'ai pris votre nom, pas inutilement sans doute. J'ai dit à Clarence que s'il arrangeait cette affaire, vous lui pardonneriez tous ses péchés. « Mais, ma chère, pourquoi devenez-vous si pâle? Après tout, cela ne vous engage qu'à faire sourire votre jolie bouche. » Belinda était piquée trop vivement dans ce moment pour entendre la raillerie. Sa colère l'inspira et lui donna du courage. Elle reprocha sérieusement à Lady de la Cour d'avoir fait usage de son nom sans son consentement. « Vous ne pouvez pas croire, Milady, dit Belinda, qu'après le mépris que M. Hervey a montré pour les nièces de Mistress Stanhope, je veuille m'abaisser jusqu'à désirer de fixer son attention sur moi. Il n'y a point d'esprit, point d'éloquence qui puisse changer mon opinion à ce sujet. » « Mais, interrompit Lady de la Cour, si vous vouliez vous servir de vos yeux, vous verriez bientôt que Clarence est amoureux de vous. Tandis que vous craignez son mépris, il craint 100 fois plus votre froideur. Vous me permettrez de vous railler tous les deux tant que vous aurez l'un et l'autre ces craintes puériles et sans aucun fondement. » Belinda sourit. « Eh bien, souriez encore une fois comme cela pour Clarence Hervey et nous sommes tous contents, » dit Lady de la Cour. « Oh, Milady, pourquoi voulez-vous employer votre éloquence à me persuader de plaire à un jeune homme dont vous m'avez fait un portrait brillant à la vérité, mais qui ne donne pas une grande estime pour lui ? Il y a quelques jours, vous m'avez dit vous-même que M. Hervey ne voulait pas se marier, et votre pénétration devrait servir à vous montrer qu'il veut seulement se moquer de moi. Je ne conviens pas pour femme à M. Hervey sous aucun rapport. C'est un homme d'esprit, je n'aime pas assez le monde pour lui plaire. Je n'ai pas été élevée par ma tante Stanhope, je n'ai habité que quelques années avec elle, et je voudrais bien n'y avoir jamais été. » « Je prendrai soin que M. Hervey sache cela, » dit Lady de la Cour. « mais en attendant, tout bien considéré, je suis plus à plaindre que vous dans ce moment. Car le terme de tout ceci est qu'il faut que je paie 200 guinées pour les chevaux, d'une manière ou d'une autre. » Je peux les payer, s'écria Belinda, et ce sera avec le plus grand plaisir. Je n'irai pas à la cour. Mon habit n'est pas encore commandé. 200 guinées suffisent-elles pour payer les chevaux? Oh, prenez cet argent. Payez, monsieur Hervé, chère lady de la cour, et tout sera bien. Vous êtes une charmante fille, dit lady de la cour en l'embrassant. Mais que dirait ma cousine et votre tante Sanhope si vous ne paraissez pas à la cour le jour de la naissance du roi? Cela ne peut pas être, ma chère. D'ailleurs, vous savez que Mistress France doit apporter votre habit de cour aujourd'hui, et cela serait ridicule d'être présenté pour rien. Eh bien, dit Belinda, je n'irai pas à la cour. Vous n'irez pas, ma chère. Quoi? Vous dépenserez 50 guinées pour rien? Réellement, je n'ai jamais vu quelqu'un si prodigue de son argent et si économe de ses sourires. Certainement, dit Miss Portman. Il vaut mieux pour moi que je jette 50 guinées par la fenêtre, toute pauvre que je suis, que de risquer le bonheur de ma vie. J'y suis décidée, milady. Voici un billet de 200 guinées. Payez, monsieur Hervé, je vous en supplie, et toute l'affaire sera terminée. Mais sérieusement, Miss Portman, je suis concernée que vous me forciez de prendre ce billet. C'est absolument vous ruiner. Mais Lord de la Cour est le seul qu'il faut blâmer. C'est son entêtement. Ayant dit une fois qu'il ne voulait pas payer les chevaux, il nous laisserait plutôt mourir que de changer d'avis. Le mois prochain, je pourrai, ma chère, vous les rendre et vous payer de 1000 remerciements. Quelques mois encore, nous aurons un autre jour de cour, et alors un nouvel astre paraîtra sur l'horizon de la mode et on l'appellera Belinda. En attendant, ma chère, peut-être pourrons-nous engager Mistress France à céder votre habit de cour à quelques personnes de bon goût, et alors vous garderez vos 50 guinées pour la première occasion. Je verrai ce qu'on pourra faire. Adieu. Je vous remercie 1000 fois, malgré votre obstination. » Mistress France déclara d'abord qu'il lui était impossible de céder l'habit de Miss Portman. À la fin, cependant, 10 guinées rendirent tout possible. Belinda se réjouit de s'en être tirée à si bon marché, et, contente de sa propre conduite, elle écrivit à sa tante Stanhope pour lui mander ce dont elle pouvait l'informer sans trahir lady de la cour. « Milady, disait-elle, a eu besoin tout de suite de 200 guinées, et c'est pour lui prêter cette somme que j'ai abandonné l'idée d'aller à la cour. » Nous verrons suffisamment par la réponse de Mistress Stanhope ce que contenait encore la lettre de Miss Portman. Mistress Stanhope à Miss Portman. « Je ne puis m'empêcher d'être très étonnée, Belinda, de votre extraordinaire conduite et plus encore de votre singulière lettre. Je vous avoue que je ne conçois pas ce que vous entendez par principes et délicatesses quand je vois que vous oubliez non seulement le respect qui est dû aux avis et aux opinions de votre tante, à qui vous devez tout, mais que vous prodiguez son argent sans le moindre scrupule. Je vous ai envoyé 200 guinées et je désirais que vous allassiez à la cour. Au lieu de cela, vous prêtez mes 200 guinées à lady de la cour et vous me mandez que vous ne croyez pas pouvoir, sans indiscrétion, me communiquer toutes les raisons qui vous ont décidé. C'est bien satisfaisant et bien aimable pour moi. Et ensuite, pour accommoder tout cela, vous me dites que, dans votre position, vous ne croyez pas qu'il soit nécessaire que vous alliez à la cour. Vous ajoutez que nos opinions diffèrent sur beaucoup de points. Je dois donc et veux vous dire que vous êtes aussi ingrate que présomptueuse. Je pense donc qu'une jeune fille qui a été bien élevée et produite dans le monde par ses parents doit suivre aveuglément leur volonté. Vous ne manquez pas d'esprit, Belinda. Vous me comprenez parfaitement, et par conséquent, je dois imputer vos erreurs plutôt à votre cœur qu'à votre jugement. Je vois qu'à cause de la maladie de la princesse, la fête pour le jour de naissance du roi sera remise à une quinzaine. Si vous parlez d'ici là à Lord de la Cour, à l'insu de sa femme, de l'argent que vous lui avez avancé et du prix que j'attache à ce que vous paraissiez à la cour, « ne doutez pas qu'il ne vous rende vos 200 guinées. Vous le prierez en même temps de ne pas vous compromettre avec lady de la cour, parce qu'elle pourrait se choquer de ce que vous auriez eu recours à lui. J'ai appris par des amis intimes de lord de la cour qu'il vous aime beaucoup. Quoiqu'un peu obstiné, il est bon homme. Ainsi, vous en ferez ce que vous voudrez. « Voilà, ma chère, comment avec un peu d'adresse, vous irez à la cour sans qu'il vous en coûte un sou de plus. Adieu, n'oubliez pas que vous devez à votre tante de suivre ses avis. » Célina Stanhope. Bélinde lut cette lettre avec chagrin, mais sa conscience ne lui reprochait rien. Elle sentait bien qu'elle n'aurait pas eu le droit de prêter cet argent à Lady de la Cour si sa tante lui avait expressément mandé de ne l'employer qu'à sa parure. Mais Miss Stanhope n'avait pas écrit cela positivement en envoyant à sa nièce les lettres de change. Celle-ci était peinée cependant d'avoir déplu à sa tante, et de plus, elle était étonnée de voir que M. Hervé ne changeait pas de manière vis-à-vis d'elle. Elle fut très surprise un jour de s'entendre accuser par lui de caprice parce qu'elle avait abandonné l'idée d'aller à la cour. L'embarras de Lady Delacour, tandis qu'Hervé parlait, la décida à garder le secret sur l'argent qu'elle lui avait prêté, et elle répondit légèrement à M. Hervé qu'il était surprenant qu'un homme comme lui fût étonné de trouver une femme capricieuse. La conversation prit alors un autre cours, et tandis qu'ils causaient sur différents sujets, Champfort, le domestique de Lord de la Cour, entra avec la lettre de change de Miss Stanhope dans la main. « Le sellier vient de rapporter ce billet, dit-il, parce que Miss Portman a oublié de l'endosser. » L'étonnement de Bélinde fut aussi grand dans ce moment que la confusion de Lady de la Cour. « Venez par ici, ma chère, et nous trouverons une plume et de l'encre. Vous n'avez pas besoin d'attendre, Champfort, mais dites à l'homme qu'on va lui donner le billet. » Miss Portman va l'endosser tout de suite. » Et elle conduisit Bélinde dans une autre chambre. « Grand Dieu !» s'écria Bélinde. « Cet argent n'a donc pas été payé à M. Hervé ?»« Non, ma chère, mais je prendrai tout le blâme sur moi. Lord de la Cour n'a pas voulu payer ma voiture neuve. Le sellier a eu l'insolence de refuser de la livrer avant d'avoir touché 100 guinées. J'avais les chevaux, à quoi m'aurait-il servi sans voiture ?» Je savais que Clarence Hervé pouvait attendre son argent plus longtemps qu'un pauvre ouvrier. Ainsi, j'ai payé ce dernier. Et quant à Clarence, quelques mois plus tôt ou plus tard, ne lui font rien du tout, car je vous dirai, ma chère, si cela peut vous faire plaisir, qu'il roule sur l'or. « Oh, que pensera-t-il de moi ?» dit Bélinde. « Dites plutôt de Lady de la Cour. » « Lady de la Cour, dit Bélinde, d'un ton plus ferme qu'elle ne lui avait encore parlé. « J'insiste absolument pour que ces billets soient donnés à M. Hervé. »« C'est impossible, ma chère. Je ne peux pas les reprendre au sellier. Il a envoyé la voiture. C'en est fait, il ne faut plus y penser. Mais puisque vous êtes si tourmentée, je dirai la vérité à Clarence et ma conscience seule sera chargée de ma faute. » Ainsi, ma chère, reprenez votre gaieté, oubliez tout ceci pendant que je vais rapporter à M. Hervé les louanges qu'il m'a chargé de vous faire sur la dignité de votre esprit et la simplicité de votre caractère, etc. » Lady de la Cour sortit en finissant ces mots, alla rejoindre Clarence Hervé et lui raconta toute l'histoire avec l'adresse qu'elle savait si bien employer quand elle voulait pallier ses torts. Elle était sûre de réussir auprès de Clarence, car c'était l'homme à qui l'argent coûtait le moins. Et d'ailleurs, il avait d'autres raisons pour pardonner cette petite intrigue à Lady de la Cour. Il avait découvert que Bélinde méritait son estime, c'était assez pour lui. C'est alors qu'il sentit tout l'empire qu'elle avait sur son cœur. Il allait lui déclarer son amour, lorsque malheureusement, Sir Philip Bedley et M. Rochefort s'annoncèrent eux-mêmes par le bruit qu'ils firent sur l'escalier. C'étaient ces messieurs qui avaient dit tant de mal de Miss Stanhope et de sa nièce chez Lady Singleton le jour du bal masqué. M. Hervé ne voulait point qu'ils s'aperçussent de l'état de son cœur et il cacha son émotion en prenant ce ton de gaieté qui charmait tous ceux qui le connaissaient. Après quelques moments de conversation, ils forcèrent Clarence à venir avec eux goûter des vins chez Sir Philip Bedley. Ils sortirent tous les trois.